France Musique.
Priscille Lafitte, Musique et moi.
C'est un enregistrement qui date du milieu des années 60. Christian de Porzempart, où étiez-vous dans ces années-là?
J'étais aux Beaux-Arts et j'étais à New York. J'étais donc étudiant encore.
Est-ce que c'est à New York que vous avez découvert le jazz? Parce qu'on a bien senti depuis le début de cette émission que c'est un genre musical qui vous attire. Vous parliez du ragtime qui a retenti dans l'enceinte du CNSM. Vous nous avez parlé de vous-même, vos essais de jazz au piano. C'est à New York que ça s'est joué?
Non, c'est joué vers 16 ans, 15 ans, avec les disques. Ça s'est joué avant, donc au début des années 60, je dirais. Et à New York, évidemment, j'ai eu l'occasion d'écouter beaucoup. Mais c'était né avant.
Quel disque vous aviez découvert à l'adolescence?
J'ai découvert Monk. Après avoir écouté Garner, Charlie Parker, Miles Davis, Monk, Coltrane aussi, dans cette sorte de filiation.
Qu'est-ce qui vous magnétise chez Monk?
L'art des silences entre les notes. Quelque chose de inné, et puis des harmonies qui ont l'air très simples et qui sont subtiles, une espèce de force tranquille, des thèmes qui paraissent tout simples et qui sont très subtils. Beaucoup de musiciens sont en train de redécouvrir les compositions de Monk et font des choses très belles avec, parce qu'ils peuvent en tirer un tas d'interprétations et d'instrumentations qui n'était pas imaginable. Non, il y a quelque chose de fort et joyeux, et d'unique aussi. On se demande comment ça a pu... On n'a pas l'impression qu'il s'est beaucoup éloigné justement du ragtime, du blues, du piano avec la main gauche stride. Et pourtant, de cela, il sort quelque chose d'unique et de surprenant. Alors, c'est cette possibilité de faire quelque chose de surprenant avec des moyens qui sont simples et partagés par tout le monde. Je me dis, par moment, je pourrais me dire, c'est parce que c'est des... Toutes les réflexions sur l'art se relient à ce qu'on est en train de faire. Mais je me dis, sur l'architecture, il y a même quelque chose comme ça qui est beau dans l'histoire, en tout cas. C'est que souvent, il y a des modèles simples, et puis certains en ont fait quelque chose d'assez surprenant. Et puis d'autres, ils ont appliqué le modèle simple et ça marche aussi. Une ville est faite de choses, devrait être faite de choses simples qui marchent bien et puis de quelques éléments qui sont un peu extraordinaires, qui surprennent par leur beauté, par leur organisation.
On écoutait à l'instant Monk's Dream. C'est un enregistrement qui date de 1952, Thelonious Monk au piano, Art Blakey à la batterie, Gary Mapp à la contrebasse. Et vous nous parliez du vide, de l'espace entre les notes chez Monk. Et il y a deux choses chez Monk. Il y a effectivement cet espace, ces syncopes, ce rapport au contretemps, l'art du contretemps, et puis les notes contiguës qui s'accolent, comme si Monk ne pouvait pas décider entre ces deux notes et les jouer ensemble, une dissonance qui est vraiment sa patte à lui. Est-ce que la dissonance vous parle en tant qu'architecte?
Oui, c'est pas... Oui, c'est des rapprochements qui sont difficiles à systématiser. C'est difficile de dire. Mais pour moi, le rapport entre, par exemple, la musique et l'architecture, c'est évidemment lié au temps et à la durée et au rythme. Car vous entrez dans une architecture ou dans une ville et vous allez marcher, vous allez déambuler, vous allez découvrir, vous allez avoir peut-être la curiosité d'aller voir plus loin et ça change. Ici, c'est serré, là, tout d'un coup, ça s'élargit. Et il y a un escalier qui est surprenant, et puis vous arrivez, il fait sombre, vous êtes attiré par la lumière qui est au loin. Et dans la musique, eh bien, c'est pas la déambulation, c'est l'écoute. Et dans cette écoute, on est curieux de ce qui va se passer. Sinon, on n'écouterait pas plus. Il se passe, on est installé dans une atmosphère. Cette atmosphère est en mouvement, elle change constamment, et on est étonné par le mouvement. Et on l'aime, ce mouvement. Ce mouvement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça change. Ce n'est pas toujours la même chose. Eh bien, je trouve qu'il y a dans l'espace et dans le son de la musique, il y a ces deux choses-là, alors que la peinture n'a pas. Et c'est beaucoup à travers ça qu'on peut voir le rapprochement. Et puis, dans le mouvement musical, nous est évoquée une forme, ou plutôt l'évolution d'une forme. Et cela, je le retrouve souvent dans l'architecture, dans des moments où je suis amené à avoir une certaine liberté par rapport à l'angle droit, par rapport à la verticale et l'horizontale. Justement, c'est le cas dans cet opéra à Suzhou, et où les courbes et les contre-courbes se rejoignent, se croisent, repartent. Et là, c'est presque une représentation de la musique. Certains ont dit que la musique est une architecture pétrifiée ou l'architecture est une musique pétrifiée. Et je n'aime pas l'idée que pétrifiée, je pense que tout cela bouge et est en mouvement, n'est pas immobile. Même l'architecture dans son aspect le plus statique, en fait on ne le perçoit bien qu'en se déplaçant. Alors j'ai un souvenir du film d'Alain René l'année dernière à Marienbad, parce que c'est début des années 60. Et je me souviens très bien que la caméra, est, dans son mouvement, passait à travers le jardin à la française, le petit château. Et c'est cette façon le mouvement de la caméra qui déclenchait l'émotion architecturale. C'est pas, ou paysagistique, puisqu'il s'agissait d'un jardin. C'est pas le jardin lui-même, c'était notre mouvement, ou le mouvement de la caméra dans ce jardin qui créait l'émotion.
la contrebasse de Charles Mingus qui clôt ces Fables of Phobos qui date de 1977. Donc Mingus à la composition, il est accompagné de Lionel Hampton au vibraphone, Woody Shaw à la trompette, Jerry Mulligan au saxophone baryton. Vous nous avez parlé de la ville de New York et j'aimerais qu'on y reste un tout petit peu. Christiane Porzempart, est-ce qu'elle vibre d'une façon particulière? Est-ce qu'elle a une rythmique bien à elle? Est-ce qu'elle correspond au jazz en fait, cette ville?
Ah oui, sûrement. Sûrement, il s'est passé beaucoup de moments exceptionnels du jazz, c'est évident.
Est-ce qu'il y a quelque chose dans la structure de la ville, dans cette façon d'être, d'avoir des grilles il y a des grilles d'accord dans la ville de New York?
Je ne pense pas que ça ait joué à ce point-là, mais vous avez tout à fait raison de dire que quelque chose de très important à New York, c'est cette grille régulière des rues. Cette trame qui fait qu'on marche, on ne se rend pas compte. On a fait 4 km parce que chaque rue amène à une autre et elle pousse à une autre. La dimension de ces îlots, de ces grands blocs, permet en même temps dedans toutes les variations. Ce qui fait la continuité, c'est la régularité de la grille. Alors, jamais j'avais rapproché ça du jazz, mais en tout cas, ça se rapproche tout à fait de ce que je disais tout à l'heure sur le mouvement dans la musique et dans l'architecture. C'est-à-dire ici, nous avons un rythme urbanistique qui donne l'unité, et c'est important, et qui permet l'immense variété. Donc le pluriel et le singulier, c'est une chose qui est très importante dans la ville, l'unité d'ensemble et la particularité de chacun. Et c'est une image d'une société, je trouve, qui doit être celle d'une société qui fonctionne, c'est-à-dire il y a une cohérence d'ensemble et qui permet l'unicité de chacun et sa particularité. Eh bien, il y a ça aussi chez Mingus, puisqu'il avait cette idée que chaque instrumentiste pouvait être complètement lui-même, et ils avaient un grand plaisir à se réunir en cercle, et lui, il était à un endroit du cercle avec sa contrebasse. Chacun apporte son élément, et ça se superpose par moments avec une sorte de sauvagerie, puis les improvisations se succédant.
Est-ce que vous avez également pu aller au concert classique à New York, Christiane Porzempart?
Moins qu'ailleurs, non, pas tellement à New York.
Parce que nous allons attendre à présent l'Orchestre Philharmonique de New York dans un enregistrement de Petrushka de Stravinsky dirigé par Pierre Boulez, un enregistrement de 1969. On va l'écouter ensemble et je crois que vous aimeriez parler de Pierre Boulez ensemble.
Thank you.
C'est l'ouverture de Petrouchka de Stravinsky, ici l'Orchestre Philharmonique de New York, sous la baguette de Pierre Boulez. Christian de Porzamparc, je crois que vous avez, vous, rencontré Pierre Boulez. Que vous êtes-vous dit ?
On s'est rencontrés parce que je faisais la Cité de la Musique et il s'est beaucoup intéressé à la salle elliptique que je faisais. Et
oui, Pierre Boulez s'intéressait à l'architecture des salles. Il avait lui-même dessiné des maquettes.
Beaucoup. Et alors, il m'avait dit qu'il était inquiet avec ma forme elliptique que j'avais projetée et avec la hauteur du plafond. Pour la hauteur du plafond, c'était une grande question de ne pas avoir des premières réflexions et les réflexions précoces trop longues. Et je lui disais, mais on a la Musikverein de Vienne qui fait 12 mètres, ça devrait marcher. Et avec Shu Yain, mon acousticien, on a trouvé les moyens. Mais pour la partie elliptique, il était inquiet. Et je lui disais qu'on trouvera le moyen, avec les sortes de fenêtres que j'ai fait, d'éviter la focalisation que l'ellipse produit.
Il avait peur de quoi, précisément, dans cette salle ?
Il m'a dit, écoutez, je ne comprends pas la forme, mais vous y avez l'air d'y tenir, et je comprends la volonté de forme, par contre. S'il n'y a pas de volonté de forme, il n'y a rien en musique, et c'est pareil en architecture, je suppose. C'était intéressant parce qu'il m'a appuyé à chaque moment. Il y avait une grosse question à la fin de savoir s'il n'y avait pas trop d'absorption des basses fréquences ou pas assez. Et donc il a voulu qu'il y ait des essais. On a eu 9 mois d'essais une fois que la salle était finie, avec des tests faits par l'IRCAM et tout un laboratoire de psychoanalyse du son. Et j'ai participé à certains. On était placés dans un endroit ou un autre de la salle. Selon, le même morceau était joué 4 ou 5 fois. Ça pouvait être un quatuor à cordes, ça pouvait être un trio avant. Et le but était de voir ce qu'on entendait derrière, à côté, à droite, à gauche, et devant l'orchestre, et en hauteur et en bas. Et on notait sur une grille si le son était chaud, enveloppant, s'il revenait par en bas, etc., etc. J'ai appris à noter cela, et puis ça donnait des indications sur la salle. Et quand j'ai eu le Pritzker, j'étais aux États-Unis, c'était la cérémonie, il m'appelle, et il me dit « Je suis content, on vient d'avoir un dernier essai ». Je ne pouvais pas être à ce dernier essai. « Je suis content, mais il faut le refaire, parce que la salle était vide, il faut une salle pleine. » Autrefois, on demandait à l'armée de venir. Alors j'ai dit « Mais on a une meilleure chose que l'armée, il y a tous les ouvriers du chantier et de leur famille, et ils peuvent être invités au premier concert, ils seront dans la salle pour le prochain essai ». On a fait ça, et c'était la 9e de Mahler qu'il avait programmée. Et moi, avec Shu Yain, l'acousticien, on avait très peur que ça ne marche pas, cette question des basses fréquences. Bref, on était dehors à attendre, on n'était pas dans la salle et j'ai vu sortir les analystes, et puis le public, et puis les gens de l'IRCAN qui me disent d'un air un peu désolé, « Mais vous voyez, Christian, c'est bien !» Ils étaient quelque part un peu déçus parce qu'ils avaient dit qu'il y avait un problème avec les basses fréquences, et on avait construit un élément qui était suspendu au plafond, très lourd et très cher, qui devait améliorer l'acoustique. Et alors je rentre avec plus tardivement, donc après tout le monde, dans la salle, et Pierre Boulez était en train de descendre de la scène, et il me fait un geste, il me dit « c'est formidable, on ne touche à rien, et la suspension là-haut, on l'enlève, elle ne sert à rien ». Alors c'était la réussite. Et c'est ça aussi le don d'un grand chef, c'est d'entendre une salle. Une salle est un instrument géant, mais un instrument collectif, et d'entendre comment elle sonne et de l'imaginer comment elle doit sonner 20 mètres plus loin, dans un autre endroit de la salle, de sentir l'ensemble de la précision.